Aujourd'hui à l'émission, élection présidentielle au Brésil avec le second tour cette fin de semaine.
Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, je reçois Edison Barreto, chercheur et professeur à l'Université d'Ottawa. On va discuter des élections présidentielles au Brésil et du second tour. Comme je vous le disais en introduction, le sujet du jour, c'est les élections présidentielles brésiliennes. Le second tour va avoir lieu cette fin de semaine. Un second tour un peu indécis, même extrêmement indécis, quand on voit les différentes courbes de sondage du moment, mais surtout un second tour très important, que ce soit pour le Brésil lui-même et la démocratie au Brésil, mais aussi même pour la vitalité politique de l'idéal démocratique et même vitalité politique tout court sur le continent sud-américain, même dans l'entièreté du monde occidental. Donc c'est pour répondre un peu à toutes ces questions, je reçois Edison Barreto, qui est professeur détaché à l'Université d'Ottawa et qui est chercheur sur tous ces sujets. Bonjour, monsieur Barreto.
Oui, bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio VM. Ça me fait plaisir de vous parler de toutes dernières nouvelles de la course présidentielle au Brésil.
Et ça fait
merci, Julien, pour l'invitation.
Ah, merci beaucoup. Et en plus, c'est grâce à un de mes anciens professeurs et un de mes amis, Mathieu Arès, que j'avais eu le plaisir d'avoir comme professeur à l'Université Sherbrooke, qui m'a recommandé vraiment grandement de vous interroger sur tous ces sujets. Donc, ça va être un plaisir de discuter avec vous durant cette un peu plus d'une vingtaine de minutes de ce sujet. Et donc, pour rentrer directement dans le sujet, la question importante et la question principale, c'est quels sont les enjeux pour le Brésil au second tour des présidentielles?
Oui, en fait, nous faisons face à une dispute très commune au Brésil, en fait, et qui ressemble beaucoup à ce qui se passe actuellement dans plusieurs démocraties.
Comme aux États-Unis, par exemple.
Oui, et d'autres pays, même en France. Mmh. Alors, dans l'apparence, c'est la dispute entre ceux qui ne veulent plus le président actuel, Bolsonaro, et ceux qui ne veulent pas le retour de Lula da Silva. Mmh. En fait, c'est la dispute du refus de ces deux personnages politiques où ils sont censés représenter.
C'est
ça. À vrai dire, il s'agit de deux projets politiques
totalement
clairs.
Différents.
Oui, c'est ça.
Et on est vraiment un peu, c'est ça, quand vous disiez à quoi ça ressemble par rapport aux autres problèmes des démocraties, c'est pas vraiment des votes d'adhésion qui semblent se passer, c'est vraiment des votes de qui va être rejeté le plus important par rapport à l'autre. C'est on déteste les deux, mais qui est le moins pire, en fait.
Exactement, ça dans l'apparence,
ouais.
On le sait très bien, parce que ça a été construit autour, bien sûr avec des fake news, c'est quelque chose qui est très courant.
Extrêmement importante au Brésil en plus en ce moment.
Oui, c'est un enjeu majeur, on peut dire, de la dispute électorale au Brésil. Mais il s'agit vraiment de deux projets politiques clairs, soit le choix d'un président, d'un gouvernement qui n'a fait qu'approfondir les problèmes institutionnels, économiques, politiques, et même qui est incapable de produire un pacte national, soit le choix d'un gouvernement qui cherche à établir la normalité, à rétablir la normalité démocratique, institutionnelle. C'est très clair que le Brésil est vraiment à la croisée des chemins. Si on va au-delà de l'apparence, qui est le refus de chaque candidat, en fait, il y a d'un côté un projet politique de pouvoir autoritaire, populiste, violent, fondamentaliste, privatiste, on peut même dire isolationniste.
Isolationniste et très conservateur social, et on pourra revenir un peu sur toutes ces questions-là, mais on voit un peu l'opposition assez forte, et quand on parle un peu de haine, c'est que le camp Bolsonaro a une haine de tout au-delà de ce que la personnalité de Lula, les possibles affaires de corruption qui l'ont un peu touché dans les dernières années, le fait qu'il soit allé en prison, c'est vraiment tout ce qu'il représente, le Parti des Travailleurs. Donc on a une haine de classe, mais aussi une haine de ce qu'il ressemble en valeur, une haine, par exemple, Lula va défendre les droits des LGBT, la classe bolsonariste est très conservatrice, très évangélique, on va faire tout en sorte de réduire au maximum leurs droits et de réduire au maximum même leur existence et leur présence dans l'espace public. C'est l'exemple parfait, l'environnement, la redistribution des richesses, donc on a vraiment un affrontement idéologique très fort, et c'est ce qui attend les Brésiliens pour ce second tour. Est-ce que ce qu'on a pu voir un peu dans le débat cacophonique du début de semaine qu'il y avait eu entre Lula et Bolsonaro?
Oui, absolument. En fait, c'est un peu l'image qu'on a construite de Lula. Enfin, et bien sûr, les gros chaînes de télé, les groupes médias ont bien construit cette image-là d'un président censé corrompu, etc. Mais on sait très bien que c'était un cas de lawfare au Brésil. C'est la justice qui l'a emprisonné avec des motivations politiques.
Des motivations politiques. Pour nos auditeurs, le procureur général qui a fait l'acte d'inculpation pour Lula est ensuite devenu ministre de la justice du gouvernement Bolsonaro en remerciement explicite Bolsonaro qui au moment de le nommer le remercie d'avoir mis Lula en prison. Donc à partir de là, tout est dit.
Oui. C'était pas du tout impartial. Ouais. C'était un juge qui a vraiment ouvré pour travailler pour empêcher que Lula se présente lors des élections de 2018. Mmh. Et puis il a été vraiment emprisonné. Mais après, tout a été réglé.
C'est ça.
Et il a été liberté en fait. Mmh. Oui. Et puis après, c'est prouvé que c'était justement une persécution judiciaire et politique.
Et c'est ce qui a indé un peu son retour. Est-ce ce qui mène à la question comment elle s'est déroulée, Edison, cette campagne en général. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'observateurs étrangers, même des observateurs sur place, avaient peur un peu de violence entre les deux camps, même surtout violence provenant du camp Bolsonaro. On a pu voir par exemple quelques personnes proches de Lula, proches du camp Lula, se faire agresser, même un assassinat, si je crois, à Sao Paulo il y a quelques semaines. Mais comment elle s'est déroulée la campagne en général?
Ah oui, les incidents violents, on peut dire comme ça, physiques, ont été très ponctuels. En fait, malgré les menaces de la part des supporters de Bolsonaro, la violence physique, elle a été très limitée. Par contre, on peut dire que la dispute dans les réseaux sociaux, elle était vraiment intense. On parle d'une machine puissante de production de fake news.
Ouais.
C'est ça. D'ailleurs, on appelle le cabinet de la haine qui est installé au cœur du gouvernement et qui est fortement, où le fils du président est fortement impliqué. Lui-même un élu. Mais c'est ça, la violence était beaucoup plus dans les réseaux sociaux que proprement dans la vie courante. En fait, c'était vraiment très limité.
On reviendra sur les réseaux sociaux dans quelques minutes, mais avant toute chose, quelles sont les grandes propositions des deux candidats? Quels sont les grands points des deux programmes, des deux côtés?
Oui, ça, malheureusement, il n'y a pas eu de l'espace pour ce genre de dispute. Alors, comme je disais, à côté Bolsonaro, c'était le fake news. on disait toujours, oui, c'est ça que le Brésil va devenir si Lula revient. Et côté campagne de Lula, c'est toujours, on essaie de décortiquer ces fake news et de dénoncer finalement le gouvernement actuel. On l'accuse d'être antidémocratique, frauduleux, corrompu, anti-pauvre. Mais il n'y a pas vraiment une plateforme présentée par les deux côtés. En fait, Bolsonaro n'a jamais présenté quoi que ce soit, même en 2018.
Ouais.
Il ne fait que, je veux dire...
Il n'y a pas de programme, il utilise un peu les peurs et la colère des gens et disent, votez, j'ai pas de programme à vous proposer, mais votez pour moi parce que l'autre, c'est un enfoiré, façon de parler, pour reprendre un mot un peu argotique. Et donc, je vais vous protéger de lui.
Oui, c'est ça, oui, discours plutôt conservateur. Côté économique, lui-même, il a dit, oui, je suis ignorant, je comprends pas l'économie, mais il a transformé son ministre de l'économie comme son porte-parole. À l'époque, 2018, il a promis faire une révolution ultralibérale au Brésil, qui n'a pas eu lieu, en fait. C'est pas du tout, dans la pratique, ça n'a pas du tout été un gouvernement trop différent de ce qu'on avait auparavant, bien que, bien sûr, beaucoup d'attentes aux droits sociaux, on a réduit, on a démantelé, on peut dire comme ça, le système de l'assistance sociale, par exemple, les programmes sociaux. C'est vrai que dans ce sens-là, il y a une destruction, mais il n'y a pas vraiment eu de proposition. Et côté Lula, il se présente comme le candidat qui va
restaurer
faire le Brésil. Reprendre ce qui le Brésil a connu lors de ces deux mandats, en fait, la croissance, plus de répartition de richesses, des investissements dans les côtés de l'éducation, de la culture, ou alors même pour l'environnement. Ce sont des propositions très générales, mais qui sont attachées à ce qui s'est passé dans le passé.
Pour l'environnement, ma question, c'est par exemple, nous on le voit en tant qu'un peu observateur étranger, quand on parle souvent du Brésil en ce moment, mouvement. Si on parle des records de déforestation en Amazonie, les autochtones qui se font massacrer par les mercenaires et les milices des grandes compagnies minières et forestières. Mais on voit ça un peu de l'étranger et on se dit, est-ce que l'environnement et la crise environnementale qui couve au Brésil depuis l'arrivée de Bolsonaro avec cette déforestation, avec les différents déversements, la pollution dans les cours d'eau et tout le tralala qu'il peut avoir de crise environnementale, est-ce que l'environnement était un point central de la campagne?
Dans la campagne, pas vraiment. En fait, du côté de Lula, on l'accuse souvent, mais je crois que c'est un débat beaucoup plus au niveau international. Ouais. On vote de l'extérieur, oui, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment décisif, bien que les gens qui supportent Lula parlent beaucoup de cet aspect-là. Mais il faut savoir qu'il y a une partie, un front politique qui est fort attaché au groupe préterterien, à certains qui supportent Bolsonaro. Ces élus-là supportent Bolsonaro parce que bon, il serait beaucoup plus flexible dans les lois environnementales, pour l'utilisation des fertilisants, etc.
Et on va en parler, qui a un peu lu sur le Brésil, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Barreto, mais au niveau des grandes, ces affrontements un peu idéologiques, ces affrontements de deux grandes franges, deux grands blocs de population, c'est l'histoire du Brésil depuis la fin de l'Empire, depuis le début de la République. On a une haine qui oppose les deux camps, le camp travailleur un peu prolétaire et le camp aussi plus riche, plus les propriétaires, les grands groupes. Et les deux, à chaque fois qu'il y a une possibilité d'égaliser ou un peu de réduire les tensions, réduire les ces distances et ces différences, les deux groupes s'arc-boutent et se mettent en combat extrêmement tribal. Est-ce que, donc on en revient un peu à cette élection et le problème un peu d'une société politique qui est devenue extrêmement tribale?
Oui, absolument. En fait, il y a un ingrédient récent, celui qui est expliqué par l'inclusion digitale au Brésil, bien sûr. Il faut dire qu'aujourd'hui, 88% des villes brésiliennes ont au moins une connexion 3G. Alors, ça veut dire que c'est ça qui a changé un peu la donne. Mais vous avez raison, dans le passé, jusqu'à récemment, il y avait toujours cette dispute du camp, disons, plus populaire. Et de l'autre côté, les couches moyennes aisées qui ont toujours eu ce privilège, une couche moyenne aisée qui est plutôt blanche et donc très, très raciste à la base. Et de l'autre côté, la plupart de la population, mais qui... actuellement, il y a une dispute à l'intérieur des couches moyennes, parce que lors de l'arrivée du Parti travailleur au Brésil, il y a une inclusion sociale assez importante. On parle de 40 millions de personnes qui ont accédé aux couches moyennes. Ouais. Alors, il y a une dispute à l'intérieur des couches moyennes à l'heure actuelle. Alors, il y a une couche moyenne traditionnelle, comme je vous l'ai dit, qui est souvent, qui a été toujours très privilégiée, qui est souvent raciste, etc., qui se sent gênée par l'arrivée de ces nouvelles couches moyennes ou la couche moyenne émergente, qui a émergé exactement pendant le gouvernement de Lula.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu tout le temps, j'ai l'impression, dans toutes les sociétés, c'est à chaque fois les groupes, ou surtout des groupes qui ont connu un minimum de privilèges, les groupes qui ont connu un minimum d'accès site assez facile, quand ce groupe s'étend, ils ont un peu du mal à recevoir des nouveaux arrivants. Ils se disent, est-ce que je vais perdre de mon privilège? Est-ce que je vais perdre de mes certains droits ou certains avantages que j'ai pu avoir parce que je deviens plus gros? Donc l'avantage se dilue du fait qu'on grandit en taille. C'est un peu ce que certaines classes aisées peuvent considérer comme argument. Par exemple, quand la redistribution sociale, la redistribution des richesses vient possiblement les mettre en danger, car le groupe qui au départ est assez fermé va s'étendre et va grandir. Donc c'est un peu le problème qu'on voit au Brésil aussi.
Absolument. Alors, ces couches moyennes-là, on utilise beaucoup l'exemple que Lula donne toujours. Oui, les droits des femmes de ménage, par exemple, la possibilité des Noirs et des autochtones de fréquenter l'université fédérale, et puis avec le système de quotas. Alors, tous ces changements-là a vraiment gêné cette couche moyenne traditionnelle. Et j'ai dit, une partie de ce refus à Lula, de cette de ces couches moyennes-là, c'est un refus à, justement à cette inclusion et c'est un peu, ça représente un peu la gêne de ces groupes sociaux-là. Mais ça, c'est une partie, parce que c'est vrai que les supporters de Bolsonaro sont assez différents, même il y a une contradiction même à l'intérieur. On voit par exemple beaucoup de couches populaires qui supportent Bolsonaro, mais ce sont des couches populaires qui se sont converties à l'évangélisme, au pentecôtisme. Il faut savoir que c'était avec l'arrivée de Lula et du pasteur Vaya que les évangéliques ont pu, ont pu connaître une croissance exponentielle. Il y avait juste 20 millions en 2003, au début des années de Lula. Ouais. Et puis, l'année 2000, il y avait déjà 65 millions d'évangéliques. Et c'est un groupe politique aujourd'hui majeur. Et d'ailleurs, l'enjeu aujourd'hui majeur est probablement, on peut dire comme ça sûrement, la présence de ce groupe évangélique ou de ce front conservateur évangélique.
Excusez-moi, je t'ai coupé.
Oui, c'est pas grave. Non.
Désolé. Ce groupe évangélique, tu parlais un peu des réseaux sociaux, de ces grands groupes, ça a été les deux grands groupes, plutôt les deux grands moyens d'influence dans cette élection. Le groupe évangélique, l'utilisation des réseaux sociaux et des fake news, les grands médias et comment ces derniers organisent le débat, organisent comment le scrutin va être vu un peu par la population. Et pour ce groupe évangélique, il y a quelque chose qui a été très intéressant à mon sens, et je voudrais savoir ton opinion sur ce sujet, c'est à quel point Lula a tenté d'aller en récupérer quelques-uns dans ce groupe. Et donc ça, la question vient, est-ce qu'on a pu voir un peu un Lula qui tentait de recentrer son discours pendant la campagne et surtout pendant la campagne de second tour pour espérer aller chercher quelques évangéliques en les rassurant un peu, en disant non, je ne suis pas l'émissaire de Satan sur Terre, pour que ces derniers un peu peut-être votent Lula parce qu'ils sont un peu déçus de Bolsonaro sur certains aspects.
Oui, absolument. Chez les électeurs évangéliques, c'est Bolsonaro qui gagne. Bolsonaro qui gagne. Chez les catholiques, c'est plutôt Lula da Silva. Mais c'est vraiment intéressant que Lula est déjà, il s'est déjà recentré depuis 2003 en fait. Son gouvernement a été à l'époque déjà de centre social-démocrate, mais c'est vrai que et même maintenant Lula elle a été obligée d'aller chercher le support de la droite démocratique, disons, la démocratie, entre guillemets, civilisée pour certains, et il y a aussi de ces électeurs qui votaient pour Lula dans le passé, parce qu'il faut savoir, les groupes politiques, les élus, les pasteurs élus, même les évangéliques élus, ils étaient de la base de Lula da Silva. Ils ont toujours été pour Lula da Silva. Ils se tournaient contre maintenant, ils supportent Bolsonaro, ce sont eux qui propagent, en fait, ils sont un fort élément de propagation de fake news liées aux mœurs.
C'est ça.
En fait, c'est ça. C'est très facile de convaincre un électeur évangélique que Lula c'est anti-chrétien et puis il va fermer les églises. C'est ça qu'ils disent. Et ça fait peur à ces électeurs-là. Lula, il a essayé. Il a récemment signé une lettre pour les évangéliques. Il a participé de plusieurs événements avec plusieurs religieux évangéliques qui ne font pas, bien sûr, partie de ce groupe majoritaire qui supporte Bolsonaro. Bien sûr, il a essayé de reprendre ce... Même, il a dit, oui, je suis chrétien moi-même. Ouais. Je suis vraiment...
Donc,
je suis
anti-avortement. J'ai les valeurs.
Oui, je suis anti-avortement personnellement. Je suis contre l'avortement, mais ce n'est pas l'affaire au président. C'est le Congrès qui doit décider tout ça. Oui, c'est vrai qu'il s'est vraiment dirigé pour essayer de récupérer cet électorat qui était déjà captif. Dans le passé, ils votaient pour Lula, et qui ont été instrumentalisés par le Bolsonaro. Bolsonaro, en fait, il a trois fronts principaux, excusez-moi, de support. C'est le groupe, c'est ça qu'on appelle le BBB, le groupe politique de la balle, ceux qui sont pour l'armement, etc. Ceux qui sont pour le bœuf, alors les gros agriculteurs, etc.
Totalement.
Et pour la Bible. Ça veut dire les pentecôtistes. C'est ça qu'on dit, le BBB, c'est la base du support. Alors, et bien sûr, la plateforme conservatrice demeure, attire beaucoup ces gens de personnes. Alors, même s'ils ne sont pas à une couche moyenne traditionnelle, ils sont de l'autre côté, même s'ils sont, de, par exemple, les femmes de ménage qui ont vu leurs droits augmenter lors
des années Lula. Des années Lula, mais qui voient, qui ont des certaines valeurs et qui voient un peu Bolsonaro leur parler avec ce genre de valeurs et du fait que leur église ou leur pasteur leur parle de telle ou telle chose et même limite les instrumentalise pour voter Bolsonaro à partir de là, même s'ils ont voté Lula avant et que Lula leur a donné des droits, ils sont en mode au moins il va nous sauver de Bolsonaro va venir nous sauver de la possible apocalypse.
Oui, parce que lui il est représentant de Dieu en fait, c'est ça un peu. La campagne elle se fait sur le boule. C'est un phenomène mondial aussi. Alors, il parle à des différents électeurs, à des différents supporters qui ne se communiquent pas, en fait. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et par le réseau d'Internet, c'est très facile de regrouper ces différents tranches d'électeurs dans ces boules. Ils sont enfermés dans ces boules.
C'est ça, les chambres d'écho et l'utilisation des chambres d'écho telles qu'on le voit un peu aux États-Unis ou même ici au Canada.
Oui, absolument. C'est bien ça que se passe. Ouais. Et c'est un phénomène
L'autre question aussi qui est intéressante, vous parliez un peu de ce problème, de ces personnes qui peut-être proviennent au départ de classes qui votaient Lula, et même des personnes qui directement votaient Lula dans les premières années du Parti des Travailleurs, mais qui maintenant votent Bolsonaro. Et je veux parler un peu de l'influence du sport au Brésil. Ça me fait penser parce que des footballeurs brésiliens, le football c'est une religion au Brésil, comme on le sait. Et en tant que Français, on en a quand même beaucoup de Brésiliens en France qui sont assez importants. Et moi, je viens de Lyon, un peu un des dieux à Lyon, c'est Juninho, l'ancien joueur et tireur de coups francs. Mais je vais prendre l'exemple de Neymar ou même de Kaka, des gens qui proviennent des favelas et qui montrent ostensiblement leur vote et leur choix pro-Bolsonaro du fait de questions sociales, du fait de questions de valeurs, comme vous parliez avant. Est-ce que c'est quelque chose que Bolsonaro utilise pleinement dans sa campagne pour espérer l'emporter face à Lula? Est-ce que c'est quelque chose qui peut compter? Parce qu'on a un peu une opposition, même dans le sport, entre les pro-Bolsonaro, donc pour revenir Neymar et autres, et entre les pro-Lula, plus Juninho, Rai, et les anciennes gloires brésiliennes, plus proches des idéaux de Socrate. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça?
Oui, en fait, très peu de footballeurs se prononcent sur la politique. Je pense pas que ça soit un enjeu majeur. Oui, bien sûr, Ronaldinho et aussi Neymar ont déclaré leur vote à Bolsonaro. Et différemment, de l'autre côté, il y a Rai, le frère de Socrates, bien sûr. Mais ça, ce sont des exceptions, on peut dire. Bien que, bien sûr, il y a Casagrande aussi. Et aussi l'entraîneur de l'équipe brésilienne, de la sélection brésilienne, très très fameux, eux aussi se sont mis du côté de Lula da Silva. Ouais. La plupart en fait des célébrités se sont mis du côté de Lula da Silva. C'est ça la vraie question. Mais il faut savoir que ces gens qui sortent de milieux disons peu favorisés, souvent des gens qui sont soit pauvres ou qui sont très peu politisés, ont une tendance à se tourner vers la droite lorsqu'ils émergent. Ouais. Lorsqu'ils émergent, qu'ils passent de l'autre côté.
Parce qu'ils disent que leur politique va les aider à devenir plus riches, à les aider à accumuler un peu plus d'argent, et donc ça leur permettra peut-être d'être sûrs de quitter la pauvreté.
Oui, un peu l'idée de la méritocratie, bien que cela ne correspond pas du tout à la réalité. Ils ont eu la chance d'être, de certaines façons même. Neymar, il vient d'une famille très, très humble. Même Ronaldinho, il vient d'un favela. Ce sont des gens qui sortent des milieux peu favorisés et dont le soccer est la seule possibilité d'émerger dans la vie. Mais lorsqu'ils émergent, ça veut dire souvent on passe de l'autre côté. On va dire écoutez, il faut prioriser la méritocratie, la liberté, etc. Mais différemment de Socrates, et bon, Socrates a été il est d'une famille plutôt couches moyennes aisées. Lui-même a été un docteur, mais il s'est formé en médecine. Et puis, son père était un passionné de littérature. Enfin, c'est complètement différent. Alors, leur source. Mais je ne pense pas que ça... le footballeur en particulier, je ne pense pas qu'ils vont influencer beaucoup. Par contre, tous les artistes, la plupart des artistes sont du côté de Lula, sauf quelques chanteurs du country, du country brésilien.
Qui sont... Comme aux États-Unis.
Oui, absolument, ça ressemble beaucoup en fait. Et bon, les gens qui sont plus attachés à la campagne et même aux intérêts des propriétaires terriens.
Totalement.
Alors, ceux, ils vont vraiment du côté de Bolsonaro, mais la plupart des célébrités sont pour Lula. En fait.
Donc, Edison Barreto, chercheur et professeur à l'Université d'Ottawa, spécialiste des questions brésiliennes. Dans deux minutes, pour terminer cette super entrevue, deux petites questions. Est-ce que cette élection, au-delà si Lula l'emporte, de la question que si Lula l'emporte, est-ce que c'est un peu l'élection qui prouve qu'il faut qu'on arrête de sous-estimer Bolsonaro et le bolsonarisme qu'il représente et que ça va devenir quelque chose d'extrêmement présent dans la politique? Et est-ce que cette présence peut à la fin devenir un peu une sorte de gangrène pour la démocratie brésilienne?
Oui, en fait, le bolsonarisme, si on peut dire comme ça, ne va pas disparaître si Bolsonaro perd les élections, bien sûr. C'est presque le trumpisme.
C'est ça, comme un c'est là pour rester.
Oui, c'est pour rester, c'est un Trump tropical. Mais je pense qu'il va vraiment perdre un peu de sa vigueur lorsque Bolsonaro va quitter, parce qu'il s'en sert de l'État, en fait, pour même des institutions pour faire avancer son projet politique de façon irresponsable, de façon très... il attaque les institutions. Alors, lorsqu'il quitte, bien sûr, le contraire, ça va être catastrophique. On peut même parler d'une... c'est une situation presque apocalyptique.
Oui,
s'il gagne, bon, il a déjà été gagnant des
législatives et du Sénat.
Oui, c'est ça. Il contrôle presque le Sénat. Il contrôle déjà la Chambre des députés. Alors imaginez, il a déjà une force assez importante pour un deuxième mandat. Ouais. Alors, je pense que la situation la plus catastrophique, c'est que le Brésil devienne comme une théocratie néo-pétancotiste très conservatrice. Et ça, c'est vraiment, ça serait très mauvais pour le Brésil et pour le monde aussi.
Ouais, pour ce que ça représente.
Ce manque de responsabilité envers l'environnement, ça porte des conséquences mondiales.
Totalement.
Pour l'Amérique latine aussi, c'est catastrophique, bien sûr, le Brésil, il influence, mais c'est...
Un peu à part du fait de son aspect portugais comparé au reste de l'Amérique du Sud, qui est plus espagnol.
Oui, c'est ça, mais quand même, après la chute, on va dire comme ça, de Trump, c'est Bolsonaro qui représente...
C'est ça, qui représente un peu ce courant.
Oui, et puis ça, c'est un enjeu majeur. Alors, il va avoir un deuxième mandat, il se peut qu'il va influencer aussi les autres régimes dans la région.
Merci beaucoup, Edison Barreto, d'avoir été avec nous ce midi. Ça a été un plaisir de vous recevoir et je vous reçois quand vous souhaitez pour rediscuter toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Ottawa et chercheur spécialisé dans toutes les questions Brésil et d'Amérique latine. C'était une joie de pouvoir vous recevoir et discuter avec vous.
Oui, merci beaucoup, Julien. Merci. Ça me fait plaisir d'être avec vous et puis comptez sur moi pour de nouvelles éditions.
Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.